ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli. Bienvenue à vous pour cette émission de février. Une émission un peu particulière aujourd'hui, une émission à deux voix avec un invité, Thierry Cutel. Bonjour,
bonjour
Thierry.
Bonjour Christine.
Voilà, donc Thierry Cutel qui aime dire la poésie, l'écrire aussi. Il va être question de ses poètes de préférés, ses poètes de référence dans cette émission, à savoir Fernando Pessoa et Gerasim Luca. Puis nous aurons un échantillon de ses propres poèmes. Alors, pourquoi inviter Thierry Cutel ? Ben, plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a un goût commun pour la poésie et notamment pour la poésie qui est dite, parce que c'est important de la lire peut-être, mais c'est aussi important de l'entendre. Donc, dans ce rapport de l'oralité en poésie, je pense qu'on a des points communs. Et puis, moi, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de l'entendre, justement, en spectacle, et d'apprécier à la fois la qualité des auteurs, enfin la qualité de son choix pour les auteurs qu'il a dit, et puis aussi l'importance de la diction même des textes. Je rappelle aussi qu'il a participé au Printemps des Poètes avec Voix Mêlée, notamment à Brou avec en disant Gerasim Luca, qu'on va entendre aujourd'hui. Et puis, à côté de ça, on a aussi co-animé ensemble un projet avec des enfants de maternelle. Et puis, dernier point commun, on est tous les deux d'origine franc-comtoise. Donc ça, c'est aussi très important. N'est-ce pas, Thierry ?
Oui, oui.
Voilà.
Bien sûr.
Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de tes pratiques et comment est né chez toi ce goût pour la poésie ?
Je vais essayer. Alors, en préparant cette émission, on se disait qu'on allait laisser la place belle aux poèmes et aux musiques. Alors, je ne vais pas trop en raconter, mais dire peut-être d'où me vient ce goût ou cette nécessité plutôt de dire et d'écrire des poèmes, même si je ne sais d'ailleurs pas trop exactement d'où ça vient, mais j'ai une petite idée, en tout cas quand j'y pense, je revois le gamin que j'étais, et ce gamin plongé peut-être dans un monde de sons, alors très riche, puisqu'il y avait une maman franc-comtoise qui avait tout un tas de mots qui nous charmaient les oreilles. D'ailleurs, ça a été une grande surprise quand je me suis aperçu que tout un tas de ces mots que j'entendais très très souvent n'étaient pas partagés par mes camarades de classe. Je l'entends encore dire « ramasse ton chenille », qui voulait dire « ramasse tes affaires » ou « cette nuit, il a fait une sacrée craquée » pour dire qu'il y avait eu un coup de tonnerre. Cette maman qui causait beaucoup et un papa qui causait très très peu, qui se mettait souvent en colère. Le pauvre, je pense qu'il était habité par tout un tas de choses qui lui préoccupaient la tête. Et des fois, il débordait un peu comme ça. Mais il avait aussi, lui, une langue mais très particulière. Ça s'arrêtait des fois d'un coup. Il arrivait très rarement au bout de ses phrases. C'était comme ça, voilà. Une langue un peu hachée, mais qui nous a transmise aussi. C'était quand même finalement un grand taiseux. Et j'ai l'impression d'avoir vécu comme ça, entre le silence et la parole, le silence de mon père et la parole très, très quotidienne de ma maman qui parlait un peu pour tout le monde, parce que quand les autres ne parlaient pas, du coup, elle avait tendance à parler un peu pour les autres. Et des fois, je me dis que j'ai peut-être essayé de faire la synthèse entre ces deux formes de parole. Et peut-être le poème, c'est l'endroit de la parole où il subsiste dedans un fond de silence. Mmh. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Voilà, je viens un peu de cette terre de langage-là, de ces terres-là.
C'est peut-être la musique qui t'a occupé d'abord avant la poésie, ou est-ce que les deux sont arrivés en même temps ?
À vrai dire, un peu en même temps, sauf que la musique, c'est ce dont je me suis emparé d'abord pour faire de la musique avec les copains. On avait envie de faire de la musique très fort, de façon un peu sauvage, comme ça. Je commençais à écrire des choses, mais c'est qu'après que ça s'est que j'ai compris que j'avais là un travail à faire en poème. Et le temps passant, ce travail-là a pris le dessus, peut-être même sur la musique, même si j'ai eu après l'occasion, on en parlera peut-être, de renouer avec la musique, avec d'autres musiciens, voilà, pour dire des poèmes. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai tendance à... je travaille plus ce rapport au langage et au poème. Et peut-être juste pour... Parce que Christine, tu parlais des poètes alors sur lesquels je suis tombée assez vite. Enfin, disons, quand j'avais une vingtaine d'années, 25 ans, ce sont... Alors, tu as parlé de Fernando Pessoa, Gerasim Luca, João Rictus a été le premier peut-être que j'ai croisé. Et en y repensant, ce sont un peu tous des poètes qui avaient une forme de singularité, comme ça, avec la langue. Rictus avec son patois, alors peut-être, je ne sais pas, j'ai repensé à ça en pensant à l'émission. Peut-être que ça me rappelle un autre patois, celui de ma maman. Mm-hmm. Et pour Fernando Pessoa et Gerasim Luca, c'est aussi des gens qui ont... On peut dire que leur aventure en langage a été vraiment très très loin, dans une forme de déprise de soi, d'un savoir-faire poétique, comme pour essayer de chercher toujours les chemins de traverse et là où quelque chose n'a pas encore été dit par celui qui parle, quoi. Essayer de faire lâcher la parole et qu'elle aille peut-être même plus vite que celui qui parle, comme une espèce de recherche, de se déprendre de soi-même, du savoir qu'on a sur soi aussi. Voilà. Après, ça m'évoque juste aussi, j'en parle parce que je suis aussi un peu, je dirais, un enfant de la psychanalyse. J'ai rencontré ça à la même époque, un peu, où j'ai commencé à croiser ces poètes-là. Et puis, voilà, cette discipline qui laisse aussi la part belle à la parole lorsqu'elle s'étonne même de prononcer certaines choses, quelquefois. Voilà.
Bien sûr, bah merci pour toutes ces précisions. Et puis justement, avant d'aborder Pessoa, on va se prendre une première pause musicale. Et cette pause musicale, ce sera avec un compositeur russe qui s'appelle Alexandre Scriabine, quelqu'un qui mêlait justement poésie et philosophie dans ses œuvres. D'ailleurs, deux de ses pièces pour orchestre portent le nom de poèmes. C'est le poème du feu et le poème de l'extase. Alors, on va entendre ici un extrait de la sonate numéro 9 pour piano, interprété par Grigori Sokolov. Thank you. bien. Alors, Fernando Pessoa, qui est un monument de la poésie portugaise, et même mondiale, on pourrait dire, n'a pas été très connu du temps de son vivant, je crois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui, Thierry ?
Oui, Fernando Pessoa, plusieurs poètes en un, on pourrait dire. Effectivement, monsieur qui déambulait dans les rues de Lisbonne, qui travaillait dans une petite agence d'import-export, et dont le travail de Pessoa consistait à traduire des lettres commerciales en anglais, puisque Pessoa avait fait un grand détour par l'Afrique du Sud dans son enfance, et que de retour à Lisbonne, voilà, il parle très très bien l'anglais. Donc il est embauché pour travailler à mi-temps, et ce qui lui laisse le temps de se consacrer entièrement à ce qu'il imagine, son œuvre, qui effectivement, de son vivant, sera restée assez méconnue. Quand il est mort, on a trouvé une malle en camphre, avec, j'entendais hier soir, 25 000, je ne sais pas si c'est feuillets ou poèmes, en tout cas, une œuvre considérable que des passionnés se sont amusés, enfin plus que ça, ont reconstitué des livres, enfin voilà, ont trié tout ça et livré à la publication toutes ces œuvres qui n'avaient pas encore vu le jour. Et peut-être on peut parler de... Alors, Pessoa, je disais, plusieurs poètes en un, c'est-à-dire que il raconte, Pessoa, par exemple, le 8 mars 1914, il raconte cette chose-là, il s'approche de sa commode sur laquelle il a ses feuilles de papier, il se saisit d'une feuille pour écrire, et là, il raconte qu'un poète a surgi en lui et qu'il a écrit d'une seule traite 49 poèmes qui sont les poèmes du gardeur de troupeaux. Et plusieurs poètes vont surgir en lui à la suite de Alberto Cairo, ce premier poète. Et juste pour préciser, c'est la naissance des hétéronymes. Ce ne sont pas vraiment des pseudonymes. C'est des poètes qui en fait ont une existence en tant que telle, qui ont une biographie et qui discutent après même entre eux. Voilà.
D'accord.
Pessoa orchestrant bien sûr tout cela, mais avec vraiment une espèce de... Voilà, comme s'il accouchait de tout un tas de voix qui sont quelquefois très contradictoires.
Et ces 49 poèmes, tu les as dit, toi, en spectacle ?
Oui, ouais.
Tu les dis toujours ?
Oui, oui. Avec Lionel Roland, qui est un vieux compagnon maintenant de jeu, voilà, on a monté une version du gardeur de troupeau avec oud et texte du gardeur de troupeau.
Mmh. D'accord. Et les textes s'adaptant à la musique s'adaptant aux textes, c'était un va-et-vient entre vous ?
Oui, un va-et-vient, ouais. La musique étant totalement improvisée, les textes évidemment non, mais par contre leur ordre venant au fil du discours musical de
Voilà,
de
donc
Lionel.
Ils pouvaient varier d'une représentation
voilà,
à l'autre.
Jamais...
Mais ça, c'était vraiment intéressant.
On a fait ça parce que le gardeur de troupeau, dont on va entendre un des poèmes, lu par toi, Christine, parle beaucoup du présent et de la difficulté qu'on peut avoir que l'être humain a à habiter le présent et à se laisser porter par ses sensations.
Par ses sensations, exactement. Alors peut-être qu'on va écouter le texte d'abord, mais on va entendre tout de suite derrière une artiste portugaise qui s'appelle Bevinda, qui est auteur, compositeur, interprète, née au Portugal mais qui habite en France maintenant, qui chante dans les deux langues avec un style un petit peu inspiré du fado. Et on va entendre donc cette chanson, ce texte de Pessoa qu'elle a mis en musique. Alors voici d'abord le poème et tout de suite après la chanson. Je suis un gardeur de troupeau. Le troupeau, ce sont mes pensées. Et mes pensées sont toutes sensations. Je pense avec les yeux et avec les oreilles, et avec les mains et les pieds, et avec le nez et la bouche. Penser une fleur, c'est la voir et la respirer. Et manger un fruit, c'est en savoir le sens. C'est pourquoi lorsque par un jour de chaleur, je me sens triste d'en jouir à ce point, et que je m'étends de tout mon long dans l'herbe, et que je ferme mes yeux brûlants, je sens mon corps entier étendu dans la réalité. Je connais la vérité et suis heureux.
Continuer avec Fernando Pessoa, j'avais très envie de dire le poème d'un autre hétéronyme qui s'appelle Alvaro de Campos et qui est dans la galerie, dans la galaxie des poètes de Pessoa, qui est le poète futuriste, on peut dire, celui qui s'est emparé de l'ère moderne. Je crois que ses poèmes datent des années 15 ou 20. Et il y a un poème sur lequel je travaille depuis quelque temps, qui s'appelle Le Passage des Heures, et qui d'ailleurs a été le premier poème que j'ai entendu de Pessoa. Et quand j'ai entendu ça, ça a été tellement fort que dans ma tête, une petite voix disait, un jour, peut-être, j'aimerais dire aussi ce poème-là. Voilà, mais j'ai mis beaucoup de temps parce que c'est aussi un poème qui... C'est ce qui me touche particulièrement, c'est que Pessoa, là, fait une espèce d'introspection de tout ce qu'il a à l'intérieur, sans trier trop, c'est-à-dire en laissant parler toutes les choses, toute la noirceur qui peut l'habiter, et qu'on peut imaginer qui nous habite tous. Évidemment pas d'une façon gratuite, puisqu'après il en fait quelque chose, mais ça laisse quand même, vous allez voir, la place à de la violence, à de la noirceur. Le passage des heures.
Et tu l'as déjà donné en public ?
Oui, une fois.
Une fois.
Oui.
D'accord.
Voilà.
Donc, on va écouter Le Passage des Heures par Thierry Cutel, qui se met en place.
Sentir tout, de toutes les manières. Vivre tout, de tous les côtés. Être la même chose de toutes les façons possibles en même temps. Réaliser en soi toute l'humanité de tous les moments, en un seul moment diffus, profus, total et lointain. Je veux toujours cela avec qui je sympathise. Je me transforme toujours, tôt ou tard, en cela avec qui je sympathise. Fût-ce une pierre ou une aspiration, fût-ce une fleur ou une idée abstraite, fût-ce une foule ou une modalité de la compréhension de Dieu. Et je sympathise avec tout, moi. Je vis de tout, en tout. Me sont sympathiques les hommes supérieurs parce qu'ils sont supérieurs. Et me sont sympathiques les hommes inférieurs parce qu'ils sont supérieurs eux aussi. Parce que être inférieur est différent d'être supérieur, ce qui fait une supériorité à certains moments de vision. Je sympathise avec certains hommes pour leur qualité de caractère. Et avec d'autres, je sympathise pour l'absence en eux des mêmes qualités. Et avec d'autres encore, je sympathise pour sympathiser avec eux. Et il y a des moments absolument organiques où ces derniers sont tous les hommes. Oui, comme je suis roi absolu sur ma propre sympathie. Il suffit qu'elle existe pour avoir une raison d'être. J'étreins sur ma poitrine haletante en accolade émue, la même accolade émue, l'homme qui donne sa chemise aux pauvres qu'il ne connaît pas. Le soldat qui meurt pour la patrie sans savoir ce qu'est une patrie et le matricide, le fratricide, l'incestueux, le violeur d'enfants, le bandit de grand chemin, l'écumeur de haute mer, le voleur à la tire, l'ombre aux aguets dans les venelles, tous sont mon amante de prédilection au moins un moment dans la vie. J'embrasse sur la bouche toutes les prostituées. J'embrasse sur les yeux tous les souteneurs. Ma passivité se couche aux pieds de tous les assassins et ma cape à l'espagnol cache la fuite de tous les voleurs. Tout est la raison d'être de ma vie. J'ai commis tous les crimes. J'ai vécu au-dedans de tous les crimes. Moi-même, j'ai été, non l'un ou l'autre, dans le vice, mais le vice, personne lui-même pratiqué entre eux. Et telles sont les heures les plus arcs de triomphe de ma vie. Je me suis multiplié pour me sentir. Pour me sentir, j'ai eu besoin de tout sentir. J'ai débordé. Je n'ai fait que me répandre. Je me suis dénudé. Je me suis donné. Et il y a dans chaque recoin de mon âme un autel à un Dieu différent. Les bras de tous les athlètes m'ont étreint subitement féminin. Et rien que d'y penser, j'ai défailli entre des muscles présubés. Ont été donnés sur ma bouche les baisers de toutes les rencontres. Ont été agités dans mon cœur les mouchoirs de tous les adieux. Toutes les invites obscènes, par gestes, par regards, me frappent de plein fouet sur tout le corps en appuyant sur les centres sexuels. J'ai été tous les ascètes, tous les laissés pour compte, tous les comme qui diraient oubliés, et tous les pédérastes, absolument tous, pas un n'a manqué. Rendez-vous en rouge et noir dans les fins fonds enfer de mon âme. Freddy, je t'appelais Baby parce que tu étais blond, blanc, et que je t'aimais. Combien d'impératrices appelées à régner et de princesses détrônées tu as été pour moi. Mary, avec qui je lisais Burns, en des jours aussi tristes que de se sentir vivre. Mary, tu ne peux pas savoir combien de couples nets, combien de familles heureuses ont vécu en toi mes yeux, mon bras autour de toi et ma conscience mal assurée. Leur vie paisible, leur maison de banlieue avec jardin, leur half holidays inattendus. Mary, je suis malheureux. Freddy, je suis malheureux. Oh, vous tous, tout ce temps que vous êtes, fruit du hasard, retardataire, combien de fois aurez-vous pensé à penser à moi sans en rien faire? Ah, j'ai été tellement peu dans tout ce que vous êtes. Tellement peu, tellement peu. Et oui, et qu'en suis-je venu à être? Oh, mon univers subjectif! Oh, mon soleil, mon clair de lune, mes étoiles, mon moment! Oh, partie extérieure de moi perdue en labyrinthe de Dieu! Tout passe. Toutes les choses en défilé qui me pénètrent et toutes les villes du monde se murmurent en moi. Toutes les aubes sont l'aube. Et la vie. Toutes les aurores rayonnent du même endroit, infinies. Toutes les joies des oiseaux viennent de la même gorge. Tous les frémissements des feuilles appartiennent au même arbre. Et tous ceux qui s'en vont, se lèvent tôt pour aller travailler, vont de la même maison à la même usine, par le même chemin. Roule, grande boule, fourmilière de conscience, terre, roule. Auroréolée, crépuscularisée, à pic sur des soleils, nocturne, roule dans l'espace abstrait, dans la fausse lueur de la nuit, roule et... Je sens dans ma tête la vitesse de la rotation de la Terre et tous les pays et tous les gens tournent au-dedans de moi, centrifuge, aspiration, une rage d'aller à travers air jusqu'aux étoiles crible de coups l'intérieur de mon crâne, me transperce d'épingles secrètes sur toute la conscience de mon corps, me fait mille fois me lever et me diriger vers abstrait, vers introuvable, là-bas sans restriction aucune, la cible invisible, tous les points où je ne suis pas et en même temps, ah, n'être pas à l'arrêt, ni en mouvement, n'être pas couché, ni debout, ni ici, ni dans un autre point quelconque, résoudre l'équation de cette prolixe inquiétude, savoir où être pour pouvoir être partout, savoir où me coucher pour me promener dans toutes les rues, savoir où, oh, 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 chevaucher, ailer de moi par-dessus toutes les choses. Chevaucher, déflagré de moi, par-dessous toutes les choses. Chevaucher, ailé et déflagré de moi à cause de toutes les choses. Hop là, par-dessus les arbres. Hop là, par-dessous les bassins. Hop là, contre les murs. Hop là, se raclant sur les troncs. Hop là, dans les airs. Hop là, dans le vent. Hop là, sur les plages, à une vitesse croissante, insistante, violente. Hop là, hop là, hop là. Chevaucher, panthéiste de moi au-dedans de toutes les choses. Chevaucher, énergétique au-dedans de toutes les énergies. Chevaucher de moi au-dedans du charbon qui se consume, de la lampe qui brûle, de toutes les consommations d'énergie. Chevaucher de 1000 ampères. Chevaucher explosive, explosant de tous côtés en même temps. Chevaucher par-dessus l'espace, voltige par-dessus le temps. Je m'élève. Étalons, électrons, ions, système solaire en résumé, au-dedans de l'action des pistons, au-dehors de la rotation des rouages, à l'intérieur des pistons, changé en vitesse abstraite et folle, j'agis à coups de fer et de vitesse, va-et-vient, rage, démence, contenu. Attaché au sillage de tous les rouages, je tournoie, heure ahurissante, et l'univers entier grince, crépite, s'estropie en moi. Toujours plus vite, toujours plus l'esprit précédant le corps, précédant l'idée même véloce du corps projeté. L'esprit derrière, précédant le corps, ombre, flamèche, et là-haut, oh, oh, oh. L'énergie est partout la même. La sève des arbres est la même énergie qui meut les roues de la locomotive, les roues du tramway, les rouages des diesels. Et une voiture tirée par des mulets ou par de l'essence est tirée par la même chose. Rage panthéiste de sentir en moi formidablement, de tous mes sens en ébullition, de tous mes pores jetant des fumerolles, car tout est une seule vitesse, une seule énergie, une seule ligne divine de soi jusqu'à soi, parade vrombissant des violences de vitesse insensée. Oh, 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 ave, salve, vive la véloce unité de tout. Ave, salve, vive l'égalité de tout comme flèche. Ave, salve, vive la grande machine univers. Ave, car vous êtes un seul même, arbre, machine, loi. Ave, car vous êtes un seul même, vermine, piston, idée abstraite. La même sève vous remplit, la même sève vous varie, vous êtes une seule et même chose et le reste est en dehors est faux. Le reste qui persiste dans les yeux qui se fixent, mais pas dans mes nerfs, moteur à explosion au carburant lourd ou léger. Pas dans mes nerfs, toutes les machines, tous les systèmes d'engrenage, dans mes nerfs, locomotive, tramway, automobile, moissonneuse, batteuse, dans mes nerfs, machine maritime, diesel, semi-diesel. Diesel, Campbell, dans mes nerfs, installation absolue à vapeur, au gaz, au carburant, à l'électricité, machine mue par la courroie de tous les instants. Train, disloque-toi contre le parapet de la voie de déviation. Steamer, navigue droit au quai et déchire-toi contre lui. Automobile, conduite par la folie de l'univers entier, précipite-toi au fond de tous les précipices, tout au fond, et emboutis-toi, déchiquette-toi dans le fond de mon cœur. À moi, tous les objets projectiles, à moi, tous les objets direction, à moi, tous les objets que leur vitesse rend invisibles. Cognez-moi, transpercez-moi, dépassez-moi. C'est moi qui me cogne, qui me transperce, qui me dépasse. La rage de tous les essors se ferme en cercle, moi. Et là-haut, oh, train, automobile, aéroplane, oh mes élans. Vitesse, pénètre toutes les idées bien au fond. Emboutis de front tous les rêves et déchiquette-les. Calcine tous les idéaux humanitaires et utiles, écrabouille tous les sentiments normaux, décents, consonants, cueille dans la rotation de ton cylindre vertigineux et lourd les corps de toutes les philosophies, les oripeaux de tous les poèmes, déchiquette-les et demeure toi seul, cylindre abstrait dans les airs, seigneur suprême de l'heure européenne, métal et rut. Allons, que la chevauchée n'ait pas de fin, pas même en Dieu. Allons, que j'en reste moi-même derrière la chevauchée, que j'en reste traîné à la queue du cheval, étripé, torsadé, perdu de chute en chute, mon corps et mon âme derrière mon abstraite aspiration, ma vertigineuse aspiration à dépasser l'univers, à laisser Dieu derrière comme une borne miliaire abolie, à laisser l'homme... L'imagination me fait mal, je ne sais comment, mais c'est bien elle qui fait mal. Le soleil au-dedans de moi commence à décliner en haut du ciel. Il commence à s'esquisser un début de soir dans l'azur et dans mes nerfs. Allons, ô chevauchée, en qui d'autre parviendras-tu à me changer? Moi qui véloce, vorace, avaleur d'énergie abstraite, voudrais manger, boire, griffer, puis écorcher le monde. Moi qui ne m'apaiserais qu'en piétinant l'univers de mes pieds, le piétinant, piétinant, piétinant jusqu'à ne plus rien sentir. Moi, je sens que tout ce que j'ai désiré est resté au dehors de ce que j'ai imaginé, car bien que j'ai tout désiré, tout m'a manqué. Chevauché, démantelé par-dessus toutes les cimes, chevauché désarticulé par-dessous tous les puits, chevauché en vol, chevauché flèche, chevauché pensée éclair, chevauché moi, chevaucher l'univers, moi. Et là, oh, moi, qui suis plus le frère d'un arbre que d'un ouvrier, moi, qui ressens plus la douleur supposée de la mer qui vient battre la plage plutôt que la douleur réelle des enfants que l'on bat. Oh, comme cela doit être faux, pauvres enfants que l'on bat. Mais pourquoi donc mes sensations se retournent-elles si vite? Moi, qui suis un dialogue continuel, un parler à voix haute incompréhensible au cœur de la nuit dans le beffroi, quand les cloches oscillent vaguement sans qu'une main les touche et qu'on est bien peiné de savoir qu'il y a de la vie à vivre demain. Moi, enfin, littéralement moi, et moi, métaphoriquement aussi. Moi, le poète sensationniste, envoyé du hasard auprès des lois irrépréhensibles de la vie. Moi, le fumeur de cigarettes, par profession appropriée. L'individu qui fume de l'opium, qui boit de l'absinthe, mais qui, somme toute, préfère penser à fumer de l'opium plutôt que d'en fumer, et trouve plus digne de voir l'absinthe à boire que de la boire. Moi, qui tellement souvent me sens aussi réel qu'une métaphore, qu'une phrase écrite par le malade dans le journal de la fille qu'il a trouvée sur la terrasse, ou une partie d'échecs sur le pont d'un transatlantique. Moi, la nourrice qui pousse les pérambulateurs dans tous les jardins publics. Moi, le policier qui la regarde à l'arrêt en retrait dans l'allée. Moi, l'enfant dans la voiture qui salue son inconscience lucide en agitant son serpent à sonnette. Moi, le paysage en arrière de tout cela. La paix citadine filtrée à travers les arbres du jardin public. Moi, ce qui les attend tous à la maison. Moi, ce qu'ils trouvent dans la rue. Moi, ce qu'ils ne connaissent pas d'eux-mêmes. Moi, cette chose à laquelle tu penses et qui t'imprime ce sourire. Moi, le contradictoire, le fictif, le baragouin, l'écume, l'affiche fraîchement posée, les hanches de la française, le regard du prêtre, l'endroit où se rencontrent les deux rues et où les chauffeurs dorment accoudés aux voitures, la cicatrice du sergent qui fait la gueule. La crasse au col du répétiteur malade qui rentre chez lui. La tasse qui était celle où le tout petit qui est mort buvait toujours et dont l'anse était bréchée. Et tout cela prend place dans un cœur de mer et le remplit. Moi, la dictée de français de la toute petite qui tripote l'élastique de ses chaussettes. Moi, les pieds qui se touchent par-dessous le bridge, sous le lustre. Moi, la lettre cachée, la chaleur du foulard, le balcon avec sa fenêtre entrouverte, le porche de service où la servante parle avec les désirs du cousin. Ce salaud de José qui a promis de venir et qui n'est pas venu et dire qu'on avait un bon tour à lui faire. Moi, tout cela. Et en plus de cela, le reste du monde. Tant de choses. Les portes qui s'ouvrent et la raison pour laquelle elles s'ouvrent et les choses qu'ont déjà faites les mains qui ouvrent les portes. Moi, la disgrâce innée de toutes les expressions, l'impossibilité d'exprimer tous les sentiments sans qu'il y ait de pierre lapidaire au cimetière pour le frère de tout cela, et ce qui semble ne rien vouloir dire veut toujours dire quelque chose. Oui, moi, l'ingénieur naval aussi superstitieux qu'une marraine paysanne qui porte monocle pour ne pas ressembler à l'idée réelle que je me fais de moi. qui prend parfois 3 heures pour m'habiller sans pour autant trouver cela naturel, mais plutôt métaphysique. Et si on frappe à la porte, je me mets en colère, non pas tant pour le nœud de cravate interrompu que parce que j'en apprends qu'il y a la vie. Oui, enfin, moi, le destinataire des missives scellées, la malle aux initiales effacées, l'intonation des voix que nous n'entendrons plus jamais. Dieu garde tout cela dans le mystère. Et quelquefois nous le sentons. Et la vie pèse tout soudain. Et il fait très froid, bien plus près que le corps. Brigitte, la cousine de ma tante. Le général dont elle parlait, général quand elles étaient petites et la vie n'était que guerre civile à tous les coins de rue. Vive le mélodrame où Margot a pleuré. Des feuilles sèches tombent sur le sol irrégulièrement. Mais le fait est que l'automne est toujours en automne. Et que l'hiver vient juste après, fatalement. Et qu'il n'y a qu'un seul chemin pour mener à la vie. Et c'est la vie.
Merci Thierry pour ce très beau texte et très bien dit. Avec beaucoup d'énergie, je pense que vraiment ça donne envie de l'écouter, de l'écouter en spectacle, parce que c'est vraiment toute une tranche d'anthologie. Alors, on part un petit peu plus à l'est cette fois-ci, puisqu'on va parler un petit peu de Gherazim Luca. Gherazim Luca, c'est un poète d'origine roumaine, un juif roumain qui est né à Bucarest en 1913. Voilà, je vous dis deux mots parce que c'est important quand même de savoir un petit peu son histoire. Ça a quand même pas mal déterminé son orientation poétique. Au début du XXe siècle, Bucarest est une ville carrefour et dans la communauté juive ashkénaze, on parle communément plusieurs langues, le roumain, le yiddish, l'allemand, le français. Et Gherazim Luca publie dans les années 30 des poèmes dans des revues post-dadaïstes, puisque le mouvement dada est déjà largement et bien antérieur à cela. Il manie la dérision comme arme contre une idéologie fascisante qui se met en place dans les années d'avant-guerre. Il vient effectuer un premier séjour à Paris en 1938, puis il passe en Italie, il revient en Roumanie, il échappe ainsi à la déportation. Mais pendant toutes les années de la Seconde Guerre mondiale, il est en proie aux brimades, aux travaux obligatoires. Il dit lui-même qu'il est naufragé. Il cesse toute activité poétique jusqu'à la fin de la guerre. Et en 1947, effectivement, c'est une période un petit peu de courte période de liberté. Et là, il multiplie les publications. Après trois texte important publié en roumain, il décide de ne plus écrire qu'en français. C'est une façon pour lui un petit peu de couper le cordon avec sa langue maternelle, de s'affranchir de l'ordre établi et en tant que juif aussi de rejeter une langue qui a servi à la propagande nazie, qui a abouti à l'extermination du peuple juif. Mais c'est une parenthèse qui est de courte durée pour lui parce que le pouvoir communiste qui se met en place et auquel il aspirait, dont il était partisan, finalement se remet à exercer sur les gens la même domestication que les fascistes. Et lorsque Luca appelle à l'érotisation du prolétariat, on le considère évidemment comme un déviant. Donc il fuit la Roumanie, il échoue. La seule possibilité qu'on tolère à cette époque, c'est de lui donner un visa pour Israël, qu'il obtient quand même au bout de 5 ans. Mais c'est quelqu'un qui est étranger à la judéité. Il n'a jamais partagé l'idéal sioniste. Il se définit, lui, comme étranger juif. Finalement, il arrive à Paris en 1952 et il prend le statut d'apatride. C'est un homme de nulle part, il parle une langue tout à fait sienne. Donc c'est comme si finalement il avait habité la langue plutôt qu'un pays. Et cette langue, il va commencer à la dépecer, comme s'il réinventait un corps à cette langue. Et le premier texte majeur publié en français s'appelle « Héros limite », dont nous allons lire des extraits avec Thierry. À partir des années 60, il devient célèbre en France par ses récitals à voix haute et sa poésie subversive qui vont envoûter le public. Et chacune de ses lectures est un événement. Son idée principale est que si l'on brise la forme où le mot s'est englué, là je le cite, hein, « Si l'on brise la forme où le mot s'est englué, de nouvelles relations apparaissent. » La sonorité s'exalte, des secrets endormis surgissent, celui qui écoute est introduit dans un monde de vibrations qui suppose une participation physique, simultanée à l'adhésion mentale. Le 9 février 44 à minuit, Gerasim Luka poste son ultime message avant de se jeter dans la Seine. Il dit vouloir quitter ce monde où les poètes n'ont plus de place. Un suicide sur le même mode que celui d'un autre poète, son compatriote et ami Paul Celan, 24 ans plus tôt. La pièce que vous venez d'entendre, c'était un morceau de Benjamin Britten. C'est important de présenter ce compositeur parce qu'il a collaboré dans un album composé de 12 compositeurs de musique contemporaine qui avait été sollicité par Mstislav Rostropovitch pour un hommage à Paul Zahrer. Paul Zahrer, c'était un chef d'orchestre suisse qui a beaucoup œuvré pour faire connaître la musique contemporaine. Et la contrainte pour tous ces compositeurs, c'était de composer une musique pour violoncelle solo à partir des lettres du nom Zahrer. Donc on est passé finalement du mot à la musique. On revient à ce lien poésie-musique dont on parlait tout à l'heure. Nous allons entendre maintenant 3 textes de Gerasim Luka. Le premier, c'est Thierry qui le dit. Le second, on le dira à 2 voix. Et puis le troisième, ce sera Gerasim Luka lui-même.
Autodétermination. La manière de maman de s'asseoir, sa manie de s'asseoir sans moi, sa manie de soi, sa manière de wa le soir, de s'asseoir le soir sans moi, la manie de la manière chez maman. La manie de soi, le soir là, de s'asseoir là, de s'asseoir oui, de s'asseoir non, le soir là. Là où la manière de s'asseoir chez soi sans moi, s'asseoir à la manière d'une oie en soi, elle est la soie en soi, oui, oui et non. La manie et la manière de maman de s'asseoir chez soi, sans moi, s'asseoir chez soi, chérie, chez soi et toute seule, chérie, le soir à la manière d'un cheval, s'asseoir à la manière d'un cheval et d'un loup, d'un châle loup, oh chérie, oh ma chaloupe de soie, oh oui, s'asseoir non, s'asseoir le soir et toute seule chez soi, oh non et non. Manière de s'asseoir sans moi, chez soi, sans moi, sans chez... Oh chérie, c'est une manière, chérie, une manie de la manière de... Manière de s'asseoir chez soi sans chaise, s'asseoir sans chaise, c'est ça. C'est une manière de s'asseoir sans chaise.
Quart d'heure de culture métaphysique.
Allongé sur le vide, bien à plat sur la mort, idée tendue, la mort étendue au-dessus de la tête, la vie tenue de 2 mains,
élever ensemble les idées sans atteindre la verticale et amener en même temps la vie devant le vide bien tendu. Marquer un certain temps d'arrêt et ramener idées et morts à leur position de départ. Ne pas détacher le vide du sol. Garder idées et morts tendues.
Angoisses écartées. La vie au-dessus de la tête.
Fléchir le vide en avant en faisant une torsion à gauche pour amener les frissons vers la mort. Revenir à la position de départ, conserver les angoisses tendues et rapprocher le plus possible la vie de la mort.
Idées écartées, frissons légèrement en dehors, la vie derrière les idées.
Élever les angoisses tendues au-dessus de la tête, marquer un léger temps d'arrêt. Et ramener la vie à son point de départ, ne pas baisser les frissons et conserver le vide très en arrière.
Mort écartée, vide en dedans, vie derrière les angoisses.
Fléchir la mort vers la gauche, la redresser et sans arrêt la fléchir vers la droite. Éviter de tourner les frissons, conserver les idées tendues et la mort dehors.
Coucher à plat sur la mort, la vie entre les idées.
Détacher l'angoisse du sol en baissant la mort, en tirant les idées en arrière pour soulever les frissons. Marquer un arrêt court et revenir à la position de départ. Ne pas détacher la vie de l'angoisse. Garder le vide tendu.
Debout. Les angoisses jointes, vide tombant en souplesse de chaque côté de la mort.
Sautiller en légèreté sur les frissons, à la façon d'une balle qui rebondit. Laisser les angoisses souples, ne pas se raidir, toutes les idées décontractées.
Vide et mort penchés en avant. Angoisse ramenée légèrement fléchie devant les idées.
Respirer profondément dans le vide, en rejetant vide et mort en arrière. En même temps, ouvrir la mort de chaque côté des idées. Vie et angoisse en avant. Marquer un temps d'arrêt. Aspirer par le vide.
Expirer en inspirant.
Inspirez en expirant.
Des paroles douces et dès le départ scellées. La conque du silence frôle celle des récifs. D'où ce récit? Happé par l'aimant du non-sens, je parle à peu près ceci, pour dire précisément cela. Je suis, hélas, donc on me pense. L'aveugle vise l'aigle et tire sur un sourd. C'est ainsi que je vis ce que je vois et que ma voix se voue au moi qui s'éteint. Comme le doux dans le doute, suis-je le son de mes songes? À cette orgie de mots et d'assiettes à l'écoute, mon démon sonore agit sur un monde qui se nie, se noie et se noue au fond de ma gorge. Sorcier par onde, rythme, horde. pour le rite de la mort des mots, j'écris. Mes cris, mes rires, pire que fou, faux. Et mon éthique phonétique, je la jette comme un sort sur le langage. En deçà de ceci, et au-delà de cela, hors de moi, car être ailleurs tiraille l'heure d'abord et le maître ensuite. Leur arrêt est ici, mur du son, où l'on fusille un héros infini dont la houle cachée jette un tissu de mots, un infime drap de mort, sur le nu d'une muette couchée comme une huître dans les bras du zéro.
C'était un second extrait du même album dont vous avez déjà entendu un extrait. Ici, c'était Henri Dutilleux qui a écrit trois strophes sur le nom de Zareur. Alors, je vous ai annoncé tout à l'heure qu'on entendrait des textes de Thierry, mais je crois qu'on va remettre ça à une prochaine émission parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais je vous le promets, vous entendrez bientôt les poèmes de Thierry Coutel et on a très, très envie de les entendre. Donc, nous allons bientôt nous quitter. Simplement, Thierry, ce serait peut-être bien de nous dire ton actualité de comédien, de diseur.
Oui, j'ai très envie de vous parler d'un spectacle qui s'appelle « Ici présent », sur lequel je travaille, je retrouve mon vieux copain, là, Lionel Roland. C'est une initiative de Lionel qui nous a invités. Nous sommes cinq pour donner le texte de Jean-Pierre Abraham. C'est un auteur breton. Alors le donner en voix, il y a, je dis le texte, nous sommes deux, il y a Rimé, et puis voilà, on dit le texte ensemble, Rimé et moi. Julie Garnier est à la voix et aux flûtes, Alain Salet danse et Lionel Roland est aux guitares et aux compositions. Et ça sera le 20 mars à 15h et 17h30 au théâtre Arphonem. Voilà, ici voilà. Présent.
Très bien, ici présent. Et en mars, vous savez que ça va être aussi le Printemps des Poètes. C'est le Printemps des Poètes avec Voix Mêlée à Bourg-en-Bresse. Ça se déroulera du 5 au 26 mars. On a été frustrés pendant 2 années là, de ne pas pouvoir le faire, donc on est bien contente de pouvoir proposer beaucoup d'activités, des ateliers d'écriture, des spectacles musique-poèmes, qu'est-ce qu'on a encore ? On a plein de choses. Il faut juste que vous vous procuriez la plaquette. Alors, vous la trouverez dans tous les lieux culturels de la ville et également vous la trouverez sur le site du Théâtre Arphonem et sur Facebook Voix Mêlée. Donc, je vous donne rendez-vous, moi, pour mon émission au 17 mars, pour une émission qui sera justement totalement consacrée au Printemps des Poètes, dont le thème est, cette année, l'éphémère. Je vous dis à bientôt. Merci Thierry pour ce
Merci, Christine.
Beau moment de poésie. Et à bientôt.
À bientôt.
Ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.